Bonjour Isabelle Collet.
Bonjour.
Alors vous êtes informaticienne de formation,
oui.
Mais vous êtes chercheuse en sciences de l'éducation à l'Université de Genève. Et alors vous avez publié dans Le Manière de voir de février-mars, numéro qui est consacré à l'Internet comme révolution culturelle, un numéro qui est très intéressant par ailleurs. Vous avez publié donc un article intitulé « L'informatique a-t-elle un sexe ?» qui reprend le titre d'un livre que vous aviez publié vous-même en 2006 à l'Harmattan, titré « L'informatique a-t-elle un sexe ?» Hacker, mythe et réalité. Alors, il s'est produit une chose étrange, figurez-vous, Isabelle Collet. C'est qu'à la lecture des titres de votre article et de votre livre, l'informatique a-t-elle un sexe, je me suis presque étonné du fait que l'informatique était un mot féminin.
Vous n'êtes pas le premier à me dire ça.
Ah oui, donc ça veut dire qu'on est contaminé par le fait que la représentation sexuée au sein des informaticiens est tellement masculine que le terme même d'informatique ne peut pas être féminin, c'est ça?
Je vais vous dire, quelqu'un m'a dit « Mais pourquoi vous ne l'avez pas titré ? L'informatique a-t-il un sexe ?» Je lui dis « Parce que l'informatique est un mot féminin. » Et là, il s'en est rendu compte.
Ah oui, c'est incroyable. Mais le but de votre article n'est pas de statuer sur le sexe de l'informatique comme on statuerait, ou on a essayé de statuer en tout cas sur le sexe des anges, mais vous intéressez à cette population propre qui est celle des informaticiens,
voilà.
Et qui est alors extraordinairement masculine, ça c'est une intuition qu'on peut avoir, mais au-delà de ça, c'est une réalité, en tout cas dans nos pays.
Oui, et c'est surtout une réalité qui a augmenté fortement récemment, c'est-à-dire qu'on a tellement l'habitude de voir des populations d'informaticiens dénuées pratiquement d'informaticiennes qu'on a totalement oublié qu'à la fin des années 70, au début des années 80, c'était pas le cas. C'est-à-dire, dans ces époques-là, au début des années 80, on pouvait avoir en école d'ingénieur, filière informatique, 50% de femmes, tel que c'était le cas, par exemple, à l'INSA de Rennes.
Et est-ce que l'informatique s'est plus masculinisée que d'autres filières d'ingénierie, disons?
Oui, alors c'est la seule filière qui a eu un tel mouvement de masculinisation, un mouvement aussi fort. Alors qu'on considère que toutes les filières scientifiques et techniques voient arriver les femmes plus ou moins vite, mais la part des femmes augmente régulièrement, l'informatique est la seule filière dans laquelle les femmes étaient plutôt bien insérées pour un métier technique et dans lesquelles la part des femmes a réduit de façon très importante depuis les années 90.
Et est-ce que c'est propre à la France, ce phénomène ?
C'est très marqué en France, mais ce n'est pas propre à la France, dans le sens où aux États-Unis, on a une courbe qui est assez similaire, mais la pente est moins forte, mais on a une courbe qui ressemble. Mais il semblerait, en tout cas en Allemagne et en Grande-Bretagne, ce sont des pays dans lesquels cette diminution, même si on ne sait pas bien la quantifier, se marque également. Alors, globalement, en Europe, on va dire.
C'est ça. Alors, si c'est valable globalement en Europe et en Amérique du Nord, est-ce que c'est valable pour le reste du monde? Est-ce que les populations d'informaticiens sont aussi masculines dans d'autres pays? Ou dans des pays où, par exemple, il y a beaucoup, un développement très fort de l'informatique, qui sont notamment les pays d'Asie, Asie du Sud-Est particulièrement?
Alors, c'est assez compliqué. Il y a un pays qui ressort, et sur lequel il se passe un phénomène tout à fait étonnant, qui est la Malaisie. C'est un pays dans lequel, à la fac de Kuala Lumpur, par exemple, c'est une doyenne, et 7 enseignants sur 10 sont des femmes, et la population des élèves en dernier cycle sont à plus de 50% des femmes. Et quand on demande à ces personnes-là ce qu'elles pensent de l'informatique, comment ça se fait qu'il y a autant de femmes, ou est-ce qu'elles le voient comme un métier féminin ou masculin, elles expliquent assez tranquillement que l'informatique, c'est un métier qui n'est pas un travail de force, c'est un métier qui n'est pas dangereux, qui n'est pas salissant, qui permet de travailler à l'intérieur, voire chez soi, et donc c'est toutes les caractéristiques d'un métier féminin.
Alors c'est ça qui est absolument passionnant, c'est que ce qu'elles disent, ces femmes informaticiennes à Kuala Lumpur, n'est pas valable qu'à Kuala Lumpur. Parce qu'il n'y a pas qu'à Kuala Lumpur où le travail informatique est un travail où on peut travailler chez soi, qui ne demande pas une force physique particulière, qui est propre. Donc ce qu'on a du mal à comprendre et à saisir, c'est la raison pour laquelle il y a eu cette tendance, alors que même on verra plus précisément tout à l'heure que historiquement ce n'est pas forcément le cas, vous nous l'avez dit, mais on viendra un peu en arrière. Mais alors à quoi est-ce qu'on peut attribuer ce phénomène de masculinisation progressive de l'informatique?
Alors, en France, on est parti de l'idée que l'informatique, c'était de la logique. Et en France, la logique, c'est des maths. Et les maths, c'est par construction sociale très ancienne, est supposé d'évoluer, les maths, les sciences, la technique, d'évoluer aux hommes. L'informatique, métier technique, appuyé sur la logique, construit beaucoup au début à base de profs de maths, qui a grandi au milieu des mathématiques, s'est retrouvé évidemment avalé dans cette représentation. Et ce qui a aggravé les choses et qui a causé ce recul de la part des femmes dans les études informatiques, c'est, enfin, en tout cas, c'est le sujet de ma thèse, c'est quand le micro-ordinateur est arrivé. C'était ce qui, en France, correspond, en gros, au début, enfin, au cours des années 80.
Mais c'est complètement contre-intuitif, ce que vous dites là. Non, mais parce qu'on pourrait penser qu'au contraire, oui, le micro-ordinateur, démocratisant l'usage, faisant que il n'y a pas simplement les informaticiens, donc du coup, une population qui était déjà un peu plus masculine qui se met à pratiquer, mais tout le monde se met à pratiquer l'ordinateur, on devrait penser au contraire que ça va permettre une féminisation ou un rééquilibre.
Alors, il y a deux choses. Premièrement, au début, ce n'était pas tout le monde. C'est-à-dire quand le micro-ordinateur arrive, chaque fois qu'il y a un nouvel appareil technique qui apparaît, c'est toujours les garçons qui sont équipés en premier. Et après, c'est comme les habits trop petits. C'est-à-dire, les ordinateurs, quand ils sont déclassés, ils passent à la sœur. Ils passent du frère à la sœur et c'est le garçon qui a l'objet technique le plus neuf. Donc, les garçons sont équipés. Enfin, certains garçons sont équipés. Et autour des micro-ordinateurs se créent ces sociétés de garçons adolescents, très investis dans le rapport à la machine. C'est pas tous les garçons, mais c'est pratiquement que des garçons. Et en plus, c'est au moment où ils sont adolescents, c'est-à-dire c'est au moment où il est important de se construire comme être masculin, par opposition à ce monde inconnu qui sont les êtres féminins. Donc les filles voient essentiellement des garçons agglutinés autour des ordinateurs, n'y sont pas très bienvenues, ou en tout cas pas très bien reçues de la part des garçons, et en plus, spontanément, les parents ne vont pas leur proposer d'aller bricoler avec des ordinateurs. C'était une époque où on pouvait faire des colonies de vacances d'informatique.
Ah bon?
Parce qu'à cette époque-là, on disait l'informatique, c'est l'avenir. Si le pays veut être dans la course, il faudra que les élèves soient compétents en informatique. C'est à l'époque où on pensait que tout le monde devait savoir programmer. Mais tout le monde, c'était essentiellement ceux qui allaient devoir avoir un bon métier pour faire vivre leur famille. C'est essentiellement les garçons, évidemment. Donc, ça s'est construit, cette image d'objet dédié, destiné aux garçons et donc plus tard aux hommes. L'autre raison, c'était aussi que les métiers de l'informatique, on ne savait pas ce que c'était. C'est-à-dire, avant que les micro-ordinateurs arrivent, c'était quelque chose de très abstrait, mais c'était des métiers techniques que l'on pouvait exercer dans le secteur tertiaire, dans les banques, dans les assurances, dans les grosses administrations. Donc, pour une femme scientifique, faire de l'informatique, c'était moins contre-stéréotypé par rapport à un métier que pouvait exercer une femme que l'industrie lourde, les chantiers, ce genre de choses. Le micro-ordinateur arrive. On voit ces garçons s'investir dans ce rapport à la machine. La représentation de l'informatique change. Ça ne devient pas plus réel par rapport au métier de l'informatique. C'est simplement qu'avant, on ne savait pas ce que c'était. Et maintenant, on se met à imaginer que les métiers de l'informatique, c'est la version adulte de ce que font ces adolescents aujourd'hui avec les machines.
Ce qui est faux.
Ce qui est faux. La réalité des métiers d'informatique, de l'informatique, c'est absolument pas ça. Mais quand on s'oriente pas sur la réalité des métiers qu'on connaît rarement. On s'oriente sur la représentation qu'on peut avoir d'un métier.
Vous rappelez, Isabelle Collet, à quelque chose qui est un petit chiffre, mais qui est très intéressant. C'est qu'on se représente l'informaticien comme quelqu'un qui fait de la programmation et donc du coup qui est associé à cette image du geek ou du hacker,
oui, absolument.
Pas au sens pirate mais au sens passionné d'informatique,
voilà.
Alors qu'en fait les métiers de programmation c'est 30% des métiers
d'informaticiens. Oui, et ça réduit parce qu'ils sont beaucoup expatriés ou alors c'est des métiers que l'on confie à des débutants mais qui vont très vite quitter cette activité. Il y a quelques métiers de programmation de pointe, mais ils sont très très rares. L'essentiel des métiers ne sont pas là.
Donc dans les deux cas, pour les deux raisons qui expliquent que l'arrivée du micro-ordinateur va plutôt masculiniser ou accentuer la masculinisation du métier d'informaticien, on est quand même dans deux cas qui sont des questions de représentation.
Absolument.
Dans les deux cas.
Oui.
Et ça perdure. C'est ce qui est très étonnant,
oui,
c'est que ça perdure.
Perdure
malgré ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire le fait que les jeunes filles sont autant des
Absolument.
Usagères de l'informatique que les jeunes garçons.
Absolument. Et c'est ça qui est tout à fait étonnant, c'est qu'on aurait pu penser, comme vous l'avez dit, le micro-ordinateur arrive, tout le monde en a. Là, actuellement, la population des gens qui utilisent Internet est à peu près, en termes de sexe, à peu près similaire à la population française. C'est-à-dire qu'il y a un léger avantage des garçons, mais c'est vraiment très mince. Donc, on aurait pu se dire, les usages se sont diffusés, il n'y a plus de problème. Alors, il n'y a plus de problème pour l'usage, mais il y a une grosse frontière entre l'usage et la maîtrise. C'est comme pour votre voiture. Les femmes conduisent les voitures, elles ne sont pas plus garagistes. Et bien, pour l'ordinateur, c'est pareil.
Ah ouais, c'est une bonne analogie ça. Non, c'est une bonne analogie. Mais alors, du coup, est-ce que ça induit dans le métier d'informaticien des formes de discrimination qui peuvent être positives, enfin négatives et positive pour les femmes. Vous, par exemple, vous avez été informaticienne de formation. Alors après, vous avez un peu bifurqué, mais on sent que c'est un intérêt qui reste présent dans votre travail. Est-ce que vous avez observé, même dans les études que vous avez menées, des formes donc de discrimination positive ou négative en faveur ou en défaveur des femmes ?
Alors globalement, dans les écoles, la plupart du temps, ça se passe bien. C'est-à-dire que tant qu'on reste à l'école et que, on va dire, la concurrence n'est pas très forte dans les écoles d'ingénieurs, ou même, moi j'ai interviewé beaucoup de filles qui expliquaient que peut-être elles souffraient d'être seule fille ou presque seule fille parce qu'elles n'avaient pas de copine pour partager leur passion, mais globalement avec les garçons ça se passait bien. Oui, il y avait des remarques sexistes, oui, on avait été lourd, mais c'était gérable. Mmh. Par contre, quand on arrive dans l'emploi, là ça change. Parce qu'à la fois, elles sont demandées, parce que on trouve ça bien de féminiser les équipes, comme si elles allaient apporter un truc tout à fait spécifique du seul fait d'être des femmes en arrivant dans l'équipe. Et on s'attend plus ou moins à ce qu'elles maternent leurs collègues, qu'elles les écoutent, qu'elles les comprennent. Elles ne sont pas embauchées pour ça, a priori. Hein. Elles sont embauchées pour faire de l'informatique. Mais on aimerait bien qu'elles fassent ça en plus, ce qu'elles n'ont pas toujours envie de faire. Mais surtout, à partir du moment où la situation devient plus tendue, en termes de salaire, en termes de disponibilité, eh ben, malheureusement, ça a plutôt tendance à être elles qui en font les frais les premières. Par exemple, j'ai des récits de personnes qui ont raconté qu'au moment où il s'agissait de licencier des personnes au moment de la crise de l'informatique de 91, eh ben, c'est plutôt les femmes qui étaient sorties les premières. Aussi parce qu'elles étaient un peu moins diplômées, aussi parce qu'éventuellement on s'est demandé. Enfin, il y a des tas de raisons
après qui sont voilà. communes à,
voilà.
à d'autres
Sauf qu'à l'arrivée, voilà, c'était quand même plutôt les femmes.
Alors, vous avez dit que historiquement, l'informatique n'était pas masculine, hein, puisque donc l'informatique est un mot féminin. J'ai vraiment du mal à m'y faire, mais enfin bon, tel est le cas. Mais alors, vous citez deux exemples au-delà de ça qui sont extrêmement intéressants. C'est que la première programmatrice. Sur ordinateur.
Programmatrice, vous savez, c'est pour les machines à laver. Programmeuse.
Pardon, décidément les énormes problèmes sur le féminin aujourd'hui. Hein. Donc, programmeuse, la première programmeuse, alors pas sur un ordinateur analogique, mais sur un ordinateur mécanique, ou plutôt sur un projet d'ordinateur mécanique,
ouais.
C'était une femme.
C'était une femme, voilà. Et pas n'importe qui. Hein. Puis c'était la fille de Lord Byron, même si elle ne l'a jamais connue, ni même jamais rencontrée, vu qu'il est parti d'Angleterre alors qu'elle était bébé. Mais quand même, c'était Ada Lovelace, qui était la fille de Lord Byron et qui a travaillé avec Charles Babbage sur un ordinateur mécanique. Alors, Charles Babbage a fait un premier projet et elle a travaillé sur le projet 2 qui s'appelait la machine analytique, qui n'a jamais fonctionné, mais ils sont passés à pas grand-chose de la réussite. Par contre, pour cette machine, elle a écrit le premier programme informatique qui fonctionne, somme toute, sur les bases de nos programmes actuels, avec des mémoires, avec des tampons, des données en entrée, des données en sortie.
Ça, c'est pas anecdotique, hein, ce qu'elle a fait. Ça, c'est vraiment un objet qu'on considère encore aujourd'hui comme étant l'ancêtre.
Voilà.
À tel point, d'ailleurs, que vous racontez qu'un langage informatique américain a été nommé par l'armée américaine, ADA.
En l'honneur d'Ada Lovelace. Surtout qu'en son temps, ce programme, enfin, ni elle, ni Babbage, ni personne d'ailleurs, n'a eu conscience de l'importance de ce qu'elle venait d'écrire. D'autant plus parce que la machine n'a jamais fonctionné. Et puis, ça semblait vraiment être un à côté pas très important. Pendant longtemps, le logiciel a été beaucoup moins important que le matériel. Et alors, évidemment, encore plus à l'époque de ces machines mécaniques.
Là, c'était en 1860 et quelques.
Voilà, c'est ça. Moi non plus, je ne me souviens plus de la date par cœur, mais vous n'êtes pas loin.
Et ce qui est intéressant, c'est juste anecdotique, mais c'est assez drôle, c'est que la mère de Ada Lovelace, donc qui avait été plus ou moins abandonnée, enfin séparée de Lord Byron, avait décidé dans sa jeunesse d'orienter sa fille vers les mathématiques plutôt que vers la littérature, ce qui était quand même traditionnellement plutôt l'orientation des femmes, pour aller contre les tendances poétiques et divagantes de son père. C'est assez drôle parce que finalement, c'est un phénomène de distinction par rapport à la féminité traditionnelle anglaise de cette époque-là que d'aller vers les mathématiques déjà.
Oui. Mais Ada avait un gros avantage sur tout le monde, c'était qu'elle était supposée être la fille du plus grand esprit de son temps. Alors à partir de là, comme elle disait, les limitations normalement dues à son sexe ne la concernaient pas parce qu'elle était la fille de Lord Byron. Donc elle pouvait tout faire, elle pouvait tout se permettre et elle pouvait étudier avec les plus grands mathématiciens de son époque parce qu'elle était la fille de Byron.
Ouais, mais donc la première programmeuse était une femme, mais une femme d'exception dans les trajectoires féminines.
Bon. Voilà.
En revanche, il y a une autre figure comme ça qui traverse votre travail, mais là on est dans les années 1940, qui est une ingénieuse.
Une ingénieure. Là, je voilà. vous pardonne. Y a,
allez, c'est y a plutôt, pas de, là, c'est voilà. une sorte de joli féminin, bon, qui est Grace Hopper.
Grace Hopper, oui.
Grace Hopper. Alors, qu'est-ce que c'est que cette... Parce qu'elle est aussi très importante dans l'histoire de l'informatique.
Oui, alors elle était... C'est une des 10 premières personnes à pouvoir revendiquer le titre de programmeuse senior. C'est une mathématicienne à l'origine. Et c'est quelqu'un qui pensait que la programmation... Enfin, que le logiciel allait devenir plus important, finalement, que le matériel.
Ce qui, enfin, l'histoire lui a donné raison.
L'histoire lui a donné raison, mais à l'époque, on était très très loin de penser ça. À cette époque-là, alors c'est plus ou moins une légende, mais on dit que le président d'IBM de l'époque, Eaton, avait prédit qu'il n'y aurait jamais que 4 ordinateurs dans le monde.
C'est-à-dire que 4 machines.
4 machines, qui seraient des énormes machines.
Il n'était pas un visionnaire, lui. Hein.
Il indiquait le sud en tant que boussole, vous voyez. Enfin, il n'a peut-être pas dit ça réellement, mais en tout cas, ça lui a été attribué. Et Grace Hopper, elle a estimé que l'informatique n'avait d'avenir que si n'importe qui, enfin, beaucoup de gens, en tout cas, étaient capables de programmer et pas une poignée de mathématiciens de pointe. Donc, elle a travaillé pour faire en sorte que les machines parlent anglais. Personne n'y a cru au début. En même temps, elle n'est pas de concurrence parce que personne ne trouvait d'intérêt. C'est souvent les femmes, quand elles font des percées significatives dans un champ, c'est parce que c'est un endroit où personne n'est allé, parce qu'elle trouvait que ça n'avait aucun intérêt. Donc, il lui laisse le champ libre. Et donc, elle a inventé la compilation, ce qui a permis effectivement de passer d'un langage pas binaire, c'était un peu mieux que ça déjà, mais enfin extrêmement compliqué à manipuler, à un langage pas naturel, mais enfin beaucoup plus simple à utiliser et qui est encore utilisé. On commence à dater, mais qui est encore utilisé aujourd'hui dans beaucoup d'ordinateurs. Et en tout cas, le principe de compilation a été une avancée décisive pour la démocratisation de la programmation.
Mais Isabelle Collet, ces figures aujourd'hui sont des figures rares puisque le monde de l'informatique est dominé par les hommes, que ce soit Bill Gates, Steve Jobs. Est-ce qu'on, vous avez vu, vous, si vous êtes intéressé un peu aux figures contemporaines de l'informatique, vous avez vu des femmes qui auraient été l'équivalent, qui seraient aujourd'hui l'équivalent de ce qu'ont été Lady Lovelace ou Grace Hopper?
Alors oui, il y a des femmes. J'ai travaillé un dictionnaire des femmes créatrices où je me suis occupée de la partie informatique. Et où, d'ailleurs, à ma courte honte, j'ai découvert qu'il y avait un certain nombre de femmes qui ont fait des avancées tout à fait importantes en informatique, par exemple en cryptographie, par exemple en recherche documentaire, qui ont mis au point des algorithmes tout à fait intéressants et importants. Mais je dirais, on ne connaît pas plus qu'on connaît les noms d'informaticiens, qu'il faut être spécialiste du domaine. Donc oui, il y a des femmes, mais après... Si on regarde la grande masse de la population qui, aujourd'hui, travaille dans les métiers de l'informatique, ben c'est quand même très, très mince. Et si on regarde en Europe quelle part de personnes est diplômée de l'informatique, on est, bon an, mal an, à 9%.
Alors, Isabelle Collet, pour terminer, quelle serait la manière de rétablir une forme d'égalité sexuelle au sein de la population informaticienne? D'après ce que vous avez dit jusque-là, on se dit que la seule manière de travailler, c'est travailler sur l'imaginaire.
Alors, d'une part, agir sur la représentation, oui, ça me semble très important. C'est-à-dire que plus l'informaticien est le geek, le hacker, etc., moins... Et alors, ce qui est terrible, c'est que le geek, ça devient chic.
Voilà, c'est ce que j'allais vous dire. Voilà. J'allais vous dire, ce qui est terrible, c'est que...
Et pour autant, ça reste chic au masculin. C'est-à-dire, on peut être copine de geek... On peut aimer fréquenter les geeks, mais on n'arrive pas à le féminiser.
Juste, je fais une parenthèse, parce qu'il y a quand même... Vous dites que le geek reste essentiellement un personnage masculin, mais là, on a vu émerger, il y a 2 ans, un personnage de geek féminin extrêmement valorisé. C'est Lisbeth Salander, la quasi-héroïne de la trilogie de Stieg Larsson, qui s'appelle
Millennium, évidemment. Absolument, mais il y en avait déjà une avant. Il y avait Trinity dans Matrix.
Exactement, Trinity. Bah alors voilà, qu'est-ce qu'elle elle doit faire du bien, elle, à la féminisation
et
ben, Trinity.
C'est un peu comme Marie Curie en physique, si vous voulez. Ce sont des personnages absolument exceptionnels et extraordinaires. C'est difficile, quand on est une fille, de s'imaginer à la hauteur de Lisbeth Salander ou de Trinity, comme Marie Curie n'a jamais pu être un exemple en physique, parce que quand même, mine de rien, elle a 2 prix Nobel. C'est-à-dire, pour changer les représentations, il faut pouvoir se dire, ça peut arriver à n'importe qui, dont à moi. Pour pouvoir aspirer à être Lisbeth Salander, il faut déjà avoir une sacrée opinion de sa personne. Pour pouvoir aspirer à être Trinity, il faut avoir une sacrée opinion de sa personne. Alors, ça marche sur certaines personnes qui se disent, je suis une fille exceptionnelle, je le prouve en faisant des choses exceptionnelles et j'en suis valorisée. C'est un peu mon parcours quand j'étais en informatique, où j'étais très fière d'être une des rares filles en informatique. Pour que ça marche, il faut rester rare et exceptionnelle.
D'accord. Donc à la fois, vous êtes optimiste théoriquement et pratiquement
par
désespéré.
Par contre, il faut bosser, quoi. Ça se produira pas tout seul.
Merci beaucoup Isabelle Collet, je suis absolument ravi que vous soyez venue nous expliquer pourquoi est-ce que j'ai autant de mal à trouver des femmes pour venir à parler d'informatique ou du reste dans Place de la Toile. Merci beaucoup.